10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Damien Fleurot, Stéphane Dupont, Mickaël Darmon.
Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour.
Le communiste Maurice Thorez avait dit « il faut savoir arrêter une grève ». Aujourd'hui, le Parti communiste saura-t-il commencer une trêve ? Des milliers de Français tentent aujourd'hui tant bien que mal de maintenir leur projet pour Noël. Ils sont pris en étau entre un gouvernement qui a décidé de réformer les retraites et certains syndicats donc arc-boutés sur les privilèges accordés au personnel des transports publics. Depuis près de 3 semaines, on voit que les Français, pour autant, font tout pour aller travailler malgré les grèves et qu'il n'y a pas de conflit dans le secteur privé. Alors une autre question se pose dans la foulée. Qu'est-ce qu'être communiste au XXIe siècle ? Rêver au grand soir des régimes spéciaux ou tenter peut-être plus modestement un jour de participer au pouvoir ? Est-ce défendre les acquis des grandes entreprises publiques ou se tenir aux côtés des micro-travailleurs des plateformes de livraison par Internet ? Vous avez commencé, vous, à militer chez les jeunes communistes à Champigny-sur-Marne pour réclamer la libération de Nelson Mandela. C'était donc effectivement dans la ville de Georges Marchais où jadis il avait reçu Fidel Castro. Quant à vous, Fabien Roussel, votre prénom aujourd'hui est celui d'une tempête. Alors on va voir si effectivement la force du vent communiste que vous ferez souffler sur ce grand rendez-vous donc sera efficace avec Damien Fleurot de CNews, Stéphane Dupont des Échos que je salue. Mais tout d'abord, une réaction à cette information, Emmanuel Macron, le président de la République, renonce à sa future retraite de président de la République. Qu'en pensez-vous ?
C'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Que le président de la République, les ministres, les sénateurs, les parlementaires, les députés soient alignés au régime général, c'est la moindre des choses. Et que donc on mette fin à ce type de privilège, enfin, depuis le temps que c'était réclamé. Il a fallu ce mouvement social pour qu'il y accède enfin depuis la Côte d'Ivoire. Mais quand même, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Parce que quand lui, il a touché 2 400 000 euros en 18 mois à la banque Rothschild, qu'il payait l'impôt, il payait l'impôt sur la fortune, et quand il arrive président de la République, il se le supprime. Effectivement, quand il aura 45 ans et qu'il ne sera plus président de la République, je l'espère, il peut se priver de ces 5 200 euros
mais,
parce que lui, il en aura les moyens.
Mais ce que je note, Fabien Roussel, c'est que vous êtes au fond d'accord et vous vous félicitez de la suppression d'un régime spécial, celui du président de la République, alors que par ailleurs, vous défendez le maintien des autres régimes spéciaux.
Écoutez, ce régime spécial-là... Non, ce n'est pas une contradiction. Ce régime spécial-là accordé au président de la République qui fait qu'un président de la République, comme M. Macron, quand il ne sera plus président de la République en 2022, il aura 45 ans, il aurait touché une retraite de 5 200 euros. Écoutez, ce n'est pas un régime spécial, c'est un privilège. Et je ne pense pas aujourd'hui que ceux qui bénéficient
de conditions...
C'est instauré
depuis 1955, hein, donc ce n'est pas lui qui l'a inventé pour lui.
Non, ce n'est pas lui.
Voilà.
Mais il était temps que l'on y mette fin. Mais ce que je veux dire, c'est que de la part de ceux-là, ce n'est pas difficile d'y mettre fin, puisqu'ils brassent tellement d'argent sur leur compte en banque, comme M. Delevoye, qui ne s'est pas rendu compte qu'il touchait 5 000 euros de salaire, tellement ils brassent d'argent, c'est quand même facile de dire « Oh ben, je peux m'en priver, je vivrai bien quand même. »
Si on reste concentré sur le point, effectivement, c'est la suppression d'un régime spécial dont vous vous félicitez. Damien Fleurot.
Oui, alors il y a un week-end de pagaille, Mickaël le disait en introduction, dans les gares aujourd'hui, de nombreux Français tentent de rallier tant bien que mal des lieux de vacances pour essayer de se retrouver en famille. Vous leur présentez des excuses ce matin à ces Français qui sont dans la galère ?
Mais je pense qu'il y a effectivement de la galère pour beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, que cette galère... elle est provoquée par un gouvernement qui reste droit dans ses bottes et qui s'obstine
à vouloir à ces voyageurs
et qui s'obstine à vouloir imposer une réforme de retraite alors que depuis des mois et des mois des organisations syndicales et des forces de gauche disent qu'ils n'en veulent pas.
Fabien Roussel,
aujourd'hui l'unanimité des syndicats contre cette réforme, elle existe toujours et donc la responsabilité de cette pagaille, c'est le gouvernement et je dis oui à tout le monde. Soyons le plus possible solidaires dans cette galère. Et j'entends aussi des salariés,
donc des gens,
qui disent « oui, c'est la galère ». mais je comprends ce qui se passe aujourd'hui en France. Et donc, je pense à tous ces salariés, notamment, qui ne font pas grève ou qui ne peuvent pas faire grève dans un tas de professions. Vous savez, comme les agents de sécurité qui sont ici aux portes de votre bâtiment, ils ne peuvent pas faire grève.
Alors, on va y revenir, bien entendu. Mmh. Damien Fleureau, sur justement les galères qui continuent.
Oui, je vous propose qu'on écoute et qu'on regarde ce témoignage de ce commerçant parisien. Écoutez ce qu'il dit et ce qu'il pense de ce mouvement de grève pour lui.
Avant, on faisait exemple entre 1500 euros, 10 jours comme ça. Là, on fait 100 euros. C'est catastrophique.
Le Alors témoignage de ce commerçant, ça ne vous touche pas? Il y a énormément de professionnels qui vont perdre de l'argent là, à cause de la grève. Il va y avoir des licenciements, notamment en région parisienne. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là?
Mais comme je vous l'ai dit précédemment, qui est responsable de cette situation? Qui est responsable?
Mais est-ce que ça vous touche avant de parler des responsabilités?
Mais bien sûr que je suis touché. C'est les fêtes de Noël. C'est les fêtes de Noël. On aspire à se retrouver en famille. Et les commerçants, pour ceux qui sont dans la partie, ils font un gros chiffre d'affaires en cette période. Qui est responsable?
Enfin, est-ce qu'une trêve n'aurait pas été possible pendant les fêtes
Mais écoutez, j'entends bien la pression que vous mettez sur ceux qui font grève aujourd'hui. Mais est-ce que l'on pourrait essayer d'analyser pourquoi un gouvernement présente sa réforme de retraite à une semaine des fêtes de Noël, la réforme la pire, avec tout ce que les syndicats ont dit qu'ils ne voulaient pas dedans, et ensuite il dit « mais vous ne pouvez pas faire grève parce que c'est Noël ». Mais alors que reste-t-il aujourd'hui?
Les syndicats ont aimé aussi retrouver la symbolique de décembre 95, donc c'était pas non plus un problème pour les syndicats. Vous voyez,
ils ont présenté leur réforme à 10 jours des fêtes de Noël, et il ne faudrait rien dire parce que c'est Noël. Vous vous rendez compte? Et ceux qui font grève aujourd'hui, vous ne croyez pas qu'ils ont envie de passer des fêtes de Noël avec leur famille?
Mais pour ces commerçants, Fabien, vous savez combien ils
vous savez combien ils vont perdre.
Ils sont directement pénalisés sur leur chiffre d'affaires.
Les salariés qui aujourd'hui sont encore en grève perdent à peu près 100 euros par jour. Eux aussi vont avoir leur fête de Noël gâchée. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a aussi un climat qui dépasse le mouvement contre la réforme des retraites. Parce qu'il y a une accumulation de colère, de 2 ans et demi de colère.
Oui, tout à fait.
Et donc les gens
Roussel,
en ont là.
D'ailleurs, on vous invite pour en parler. Mais justement, à propos de ceux qui peuvent tenir ou pas pendant les grèves, le mois de décembre permet aussi d'avoir et les primes, d'avoir les fameuses cagnottes de grève qui sont des trésors de grève assez impressionnants d'après ce qu'on nous raconte. Donc il y a quand même une capacité à cette période-là aussi des syndicats à maintenir et à faire une pression. Ça n'est pas uniquement le gouvernement.
Oui, je sais. Mais enfin, c'est quand même le gouvernement qui fait le choix d'une réforme dure. C'est le gouvernement qui fait le choix de la présenter avant les fêtes de Noël. Le président de la République, il est en Côte d'Ivoire. Les ministres vont être au chaud dans leur grande maison. Et pendant ce temps-là, les salariés ont quoi pour se défendre? Et je rappelle que ceux qui font grève aujourd'hui, comme ils le peuvent, se battent pas seulement pour eux, mais pour l'ensemble des salariés et notamment pour les jeunes générations qui vont devoir, si cette réforme était appliquée, travailler beaucoup plus longtemps avec des plus petites pensions.
Alors justement, c'est pour ça que vous êtes là aussi ce matin. On veut comprendre le positionnement du Parti communiste. Damien Fleureau.
Oui, on vous a vu donc dans des cortèges ou même dans des meetings vous afficher aux côtés d'autres leaders, d'autres formations de la gauche, du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise. Mais finalement, vous partagez quoi de commun avec ces formations politiques? Vos situations sont finalement assez éloignées, notamment quand on voit la position du Parti socialiste sur le système des retraites, qui n'est pas forcément opposer un système universel comme la CFDT?
Mais déjà, ce que nous partageons, c'est un diagnostic commun. C'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de déficit avéré dans notre système de retraite, contrairement à ce que dit le gouvernement. Voilà. Et nous avons partagé nos analyses là-dessus. Et le déficit qui est annoncé, de 2,9 milliards par an, il est pronostiqué avec...
C'est le Conseil d'orientation des retraites, c'est pas le gouvernement, c'est le Conseil
d'orientation
des retraites qui l'annonce.
Dit qu'il y aura 2,9 milliards de déficit parce qu'il y a non-compensation des exonérations sociales, parce qu'il va y avoir 120 000 postes de fonctionnaires
donc
en moins...
Donc le déséquilibre,
parce
pour vous, c'est à cause de l'État.
Etc.
Le déséquilibre du système potentiel, c'est à cause de l'État, c'est ce que vous dites.
Si on compense les exonérations fiscales, si on ne supprime pas de postes de fonctionnaires, il n'y a pas de déséquilibre. De deux, nous disons autre chose, les forces de gauche et écologistes réunies. Nous disons, il faut améliorer le système actuel, car il y a des injustices, des inégalités qu'il faut réparer. Et pour cela, nous allons mettre en commun nos propositions et nous allons montrer qu'il est possible de financer les améliorations sans pour autant demander aux Français et aux futures générations de travailler plus longtemps. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui, une réforme du système de retraite se traduise par une augmentation de la durée de cotisation ou l'augmentation de la durée du temps de travail. C'est la protection sociale. C'est des combats qui ont été portés par la gauche, par les forces syndicales. C'est la retraite à 60 ans. C'est tout ça qu'il y a derrière. Donc, nous voulons, nous, aujourd'hui, pouvoir dire que les forces de gauche ont un autre projet qui montre qu'il est possible d'avoir une vraie réforme de retraite qui garantisse des améliorations, où tout le monde serait gagnant. C'est quand même comme ça qu'Ambroise Croizat, sous le gouvernement du général de Gaulle en 1945, avait présenté la sécurité sociale avec une exigence et une ambition pour la nation qui devrait être la même aujourd'hui, c'est de faire l'unanimité. C'est-à-dire, ils ont imaginé un système de protection sociale où tout le monde serait gagnant. Dans une France qui était en ruine. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer des réformes où tout le monde serait gagnant. Roussel. Il faudrait qu'à chaque fois, il y ait des perdants. Et comme par hasard, c'est toujours les mêmes. C'est le monde du travail.
Alors justement, on va en parler, Stéphane Dupont, avant la pause.
Oui, le président de la République, hier soir en Côte d'Ivoire, a appelé à une trêve et surtout a appelé les Français à faire preuve de responsabilité. Alors est-ce que vous êtes irresponsable en soutenant la grève jusqu'au bout ?
Ouais, c'est le gouvernement qui a une situation irresponsable en maintenant une réforme aussi dure pour le monde du travail, tout en ouvrant en plus notre système de retraite à la capitalisation, donc pour favoriser les assurances privées de notre pays. Je trouve que le président de la République, de s'exprimer depuis l'étranger, en Côte d'Ivoire, en appelant les syndicats, en les traitant d'irresponsables, je trouve qu'il y a une forme d'arrogance et de mépris de sa part. Aujourd'hui, c'est dur dans notre pays. Nous vivons une période de tension sociale très dure. Il y a en plus une tempête qui s'abat sur nos côtes. Je pense que plutôt que de s'exprimer de l'étranger, il ferait mieux de venir s'occuper de ce qui se passe dans notre pays, de lever cette réforme de retraite et puis de dire on se retrouve tous autour de la table en janvier et on remet tout à plat. Voilà la bonne décision qu'il devrait prendre plutôt que de nous traiter d'irresponsables.
Eh bien, comme le Parti communiste veut lutter contre son effacement historique, Fabien Roussel est là pour nous le prouver. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Damien Fleurot, Stéphane Dupont, Mickaël Darmon.
Et Fabien Roussel que l'on retrouve, numéro 1 du Parti communiste. Damien Fleurot.
Oui, Fabien Roussel, toujours sur ce sujet de la réforme des retraites. On a compris que l'exécutif ne flancherait pas, ne retirerait pas son projet. Les communistes ont montré dans l'histoire leur capacité à passer des accords, comme après la Seconde Guerre mondiale, à participer à l'effort de redressement économique. Ce n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, place du colonel Fabien, justement, le siège du parti.
Mais si, mais c'est complètement d'actualité.
Donc vous allez participer aux discussions parlementaires pour amender, améliorer ce texte au mois de février quand il sera à l'Assemblée nationale ?
Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'il soit retiré et que l'on ne discute pas de ce projet de réforme, mais d'un autre.
Très bien, vous le gouvernement ne le retirera pas, vous le savez.
Vous parlez...
Le texte sera présenté en Conseil des ministres le 22 janvier, mais après, une discussion s'ouvre au Parlement. C'est votre rôle d'élu de l'amender.
Mais on ne peut pas attendre le 22 janvier pour sortir de cette situation. Ça veut dire que le gouvernement fait le choix de quoi ? Du pourrissement ?
Dès le lundi 6 janvier, des discussions vont s'ouvrir, ministère par ministère, à Matignon avec les partenaires sociaux.
Vous vous rendez compte du calendrier qui nous est proposé ? Nous demandons le retrait, point. Et vous voyez, vous me parlez du Parti communiste français, et moi je vous citais il y a quelques instants Ambroise Croizat, sous la direction du général de Gaulle, dans ce gouvernement qui mettait en œuvre le programme des jours heureux. L'ambition à l'époque, c'était de dire, nous allons faire une protection sociale, une sécurité sociale, gagnant. Et il fallait faire l'unanimité et toutes les voix, tout le monde a voté pour cette réforme. Aujourd'hui, c'est à ce niveau-là que notre pays devrait porter l'ambition. Et nous, communistes, c'est dans cet esprit que nous voulons travailler avec tout le monde. Avec tout le monde.
Vous avez relu le discours encore il y a quelques heures, ne disait pas en préambule et au préalable, d'abord, il faut tout retirer, tout arrêter.
Mais il y avait à l'époque, je vais vous dire un exemple, par exemple. À l'époque, il y avait une angoisse des médecins qui avaient peur d'être fonctionnarisés, vu que c'était un communiste qui était ministre. Et à l'écriture du projet de loi, ils avaient peur d'être fonctionnarisés comme en Grande-Bretagne. Or, le ministre Ambroise Croizat a dit « Nous respectons la liberté des médecins et la liberté de nos concitoyens de vouloir choisir leur médecin. » Et c'est comme ça que ça a été institué dans ce texte de loi. Aujourd'hui, ce n'est plus la même économie. Nous ne vivons plus dans la même époque.
Oui, mais absolument, l'ambition, on va en parler, oui.
L'ambition de notre pays, l'ambition d'un gouvernement d'aujourd'hui devrait être la même. C'est-à-dire celle de faire une réforme où tout le monde aurait droit au progrès, où tout le monde serait gagnant. Nous produisons tellement plus de richesses qu'à cette époque. Nous produisons quatre fois plus de richesses qu'à cette époque. Pourquoi
justement
ne les mettons pas au service de tous, du progrès, de la justice sociale?
On va y venir, Fabien Roussel, justement. Peut-être que c'est un discours que vous devriez distribuer à quelques-uns autour de vous. Stéphane
Dupont.
Oui,
parce que Laurent Brun, le patron de la CGT cheminot, lui, tient un discours quasi révolutionnaire. Il menace l'exécutif, il dit qu'il est pour la guerre à outrance, le cite. La seule sortie, c'est la révolution, dit-il. Alors, est-ce que vous êtes sur cette ligne, sachant qu'il est membre, lui aussi, du Parti communiste?
Et je pense que si on veut faire une réforme de retraite progressiste, où tout le monde est gagnant, il s'agit bien d'une révolution, dans le sens où il faudra aller chercher des financements ailleurs que sur le dos du monde du travail. C'est ce que nous proposons.
Excusez-moi,
nous proposons
Laurent
de nous faire cotiser le capital.
Laurent Brun, il dit la SNCF sera par terre, mais l'appareil de la CGT sera debout.
Vous êtes d'accord?
Mais là, vous me citez un responsable de la CGT qui, d'ailleurs, dans l'épreuve, oui, bien sûr, et qui mène avec d'autres forces syndicales, d'ailleurs, un combat difficile, puisque tous les feux sont tournés vers eux, vers lui. Alors que je pourrais vous parler, moi, des aides-soignantes. Vous me parlez des régimes spéciaux. Les aides-soignantes, les sages-femmes, ont le droit, et heureusement, de partir en retraite, de faire valoir leur droit à la retraite à l'âge de 57 ans. À l'âge de 57 ans. On le remet en cause? Ce projet de loi le remet en cause.
Il veut dans le projet de loi, il y aura, 64 ans. Il y aura mesures liées à la pénibilité dans la fonction publique, au travail de nuit dans la fonction publique. Ce sera mieux pris en compte.
Mais on peut en parler. Alors parlons-en de la pénibilité. Là, je viens de vous parler des aides-soignantes qui ont le droit de partir à 57 ans, heureusement. Par contre, le calcul de la pension avec le projet de retraite Macron ne sera plus le même et elles vont perdre s'il était mis en œuvre. Et c'est bien pour ça qu'elles aussi sont mobilisées autant que les cheminots. Ensuite, pénibilité. Comment se fait-il que ce gouvernement, il y a un an et demi, d'ailleurs sous la houlette du nouveau ministre Laurent Pietraszewski, fait le choix de retirer des critères de pénibilité, par exemple dans le bâtiment, quelqu'un qui travaille à la pioche, au marteau-piqueur, un couvreur qui fait les toits de nos maisons, eh bien eux n'ont pas le droit à la pénibilité. Alors, et s'il n'est pas prévu dans la réforme Macron qu'ils y aient droit. Vous savez qu'un couvreur aujourd'hui devrait travailler jusqu'à 65 ans? Alors, et ils ne veulent pas prendre en compte ça. Ils n'ont pas le droit, ces travailleurs-là, ces salariés-là, de partir plus tôt, de faire droit à leur retraite à 55 ans, comme nous
revenir
nous proposons.
Plus précisément sur effectivement tout ce que vous voulez mettre en avant pour réformer et améliorer cette réforme. Mais tout d'abord, pour prolonger ce que disait tout à l'heure Stéphane Dupont, vis-à-vis de la position de la CGT, qui assume des coupures de courant ces jours-ci, donc dans diverses parties du territoire, vous approuvez ces méthodes?
Alors vous voyez, AEDF, alors là je vous connais bien.
Alors essayez d'abord, dire si vous approuvez ou pas assez rapidement et pas faire un long développement.
D'abord, les salariés d'EDF sont très mobilisés en ce moment face aux tempêtes. Ils sont en train de rétablir le courant.
Absolument, comme d'habitude.
La CGT d'EDF, pour montrer leur désapprobation avec ce texte de loi, ont des actions bien originales. Ils rétablissent le courant à ceux qui en sont coupés. On les appelle les Robins des Bois. D'accord? Deux, chez moi dans le Nord-Pas-de-Calais, où il y a beaucoup de personnes en situation de pauvreté, ils ont décidé de mettre en heure creuse les heures pleines. Ça veut dire que dans beaucoup de foyers, ils payent pendant quelques heures moins cher jusqu'à ce que la direction rétablisse. Et puis oui, ils ont fait des coupures d'électricité sur des zones très précises, sur des préfectures, sur des zones commerciales, etc. C'est un mode d'action aussi qu'ils ont mis en place. Eh bien écoutez, chacun ses modes d'expression. Je regrette, comme eux d'ailleurs, qu'autour de ces zones, il y ait des foyers qui soient impactés. Ce n'est pas leur choix.
Mais les zones commerciales, vous vous rendez compte que ça signifie pour des stocks qu'il faut garder au frais, des frais justement que ça occasionne également pour les commerçants, tout ce que ça occasionne comme difficulté pour les gens. C'est ça qui est difficile à comprendre. Comment faire progresser une idée en mettant en difficulté les gens?
Quel moyen d'expression a aujourd'hui le monde du travail?
Mais vous qui convoquez sans arrêt les mannes du Parti communiste et de la capacité à pouvoir faire œuvre collective. Mais dites-nous.
Quel mode d'expression ont aujourd'hui les salariés du public et du privé pour dire retirer ce texte de loi que ce gouvernement veut faire passer en force. Moi, je veux bien que vous me disiez que la CGT a tort sur tout.
Il y a une réalité. Je ne le dis pas, je pose une question.
Si, parce que c'est d'un côté, là, à ma gauche, les cheminots, à ma droite.
Questionnement.
Il y a 1,5 million de salariés dans la rue. Ce n'étaient pas tous des cheminots ou des CGT.
Alors, justement,
Fabien Roussel. 1,5 million de salariés dans la rue.
Pardon,
vous n'allez pas me dire que c'était, une manif de privilégiés. J'ai pas vu Bernard Arnault chez eux.
Fabien Roussel, justement.
Ceux qui ont manifesté dans la rue, c'était des enseignants, des personnels soignants, c'était des pompiers, c'était des salariés de plein de catégories socio-professionnelles, y compris du privé,
Fabien
qui étaient mobilisés.
Alors, justement,
c'est pas que des cheminots et des agents d'EDF.
Fabien Roussel, le 9 janvier prochain, nouvelle journée de l'intersyndicale.
Oui.
Une manifestation sans doute importante à Paris, mais aussi dans d'autres villes en province. Il faut combien de personnes dans la rue pour faire flancher le gouvernement si, avec 1,5 million, le gouvernement ne recule pas?
Écoutez, il faut le répéter pour que ça s'entende. Je voudrais que le gouvernement retire son texte de loi d'ici là. S'il ne l'a pas fait, je souhaite et j'appelle à ce que cette mobilisation du 9 janvier soit la plus large, la plus massive possible, pour que le gouvernement entende bien des deux oreilles et pas que celle de droite, que la majorité de notre population, de nos salariés, ne veulent pas de cette réforme de retraite. Donc, s'il faut qu'il y ait encore une manifestation, eh bien, elle doit avoir lieu, et j'espère qu'elle sera
et pourtant, le soutien à l'opinion est en train de baisser, justement, par rapport à ce mouvement.
C'est ce que dit un sondage de l'IFOP dans le JDD aujourd'hui.
Et d'autres sondages disent que ça reste élevé. En tout cas, ça reste majoritaire dans le pays. Majoritairement, aujourd'hui, les Français soutiennent le mouvement social, parce qu'il y a une colère accumulée depuis 2 ans et demi. Les factures d'électricité, les factures des mutuelles, les loyers, tout augmente sauf les salaires et les pensions. Il y a eu de grandes mobilisations, le gouvernement n'a accédé à rien du tout. Les gens en ont marre et donc quelque part, ils soutiennent ce mouvement parce que c'est le ras-le-bol généralisé et ils aimeraient bien obtenir une victoire. Oui, je vous le dis, nous aimerions bien obtenir une victoire contre ce gouvernement qui, depuis 2 ans et demi, fait tout passer en force, utilise tous les moyens possibles et donc il y en a ras-le-bol.
Eh bien voilà, c'est le souhait donc de Fabien Roussel pour Noël, obtenir une victoire. On se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Damien Fleurot, Stéphane Dupont, Mickaël Darmon.
Et Fabien Roussel qui fait entendre aujourd'hui la voix du Parti communiste, Stéphane Dupont.
Oui, le Parlement vient d'adopter le projet de budget pour l'année prochaine, ça se veut une réponse un peu au mouvement des Gilets jaunes, avec pas mal de mesures pour le pouvoir d'achat, dont des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Est-ce que vous pouvez admettre que ce gouvernement fait des choses pour les Français modestes?
Non.
Et pourquoi?
Donc là, je vous fais la réponse
rapide. 5 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes, c'est quand même.
D'abord, parce que, écoutez, je suis membre de la commission des finances, donc
oui,
les chiffres, je les ai vus. Quand le gouvernement vous donne 1 euro d'un côté, il vous en prend 2 de l'autre. J'ai fait le total de ce que le gouvernement va prendre aux Français sur 5 ans. C'est source, Cour des comptes, INSEE, etc. Il va nous prendre sur 5 ans, à nous, 30 milliards d'euros. En 5 ans. La hausse de la CSG pour les retraités, pendant une partie, maintenue au-dessus de 2000 euros. Désindexation des prestations sociales. Désindexation des prestations sociales. La AAH, l'APL, les retraites, 6 milliards d'euros. La hausse des cotisations d'appel à GIRC-ARCO, parce qu'il y a aujourd'hui des retraités qui perdent sur leur retraite. Les taxes sur l'essence qui ont commencé en 2017 et qui n'ont pas été baissées. La hausse des taxes sur l'essence, 12 milliards d'euros. L'homéopathie, 300 millions d'euros. Les taxes sur le tabac, en tout, 30 milliards d'euros, ça c'est directement pris sur le porte-monnaie. Je compte pas les hausses d'électricité, de mutuelles, etc.
Donc pour vous, c'est un budget qui prend de l'argent aux Français.
Je ne compte pas non plus les 13 milliards d'euros enlevés aux collectivités, puisque moins d'argent aux départements, aux régions, aux agglos, aux communes, c'est moins d'argent pour répondre aux gens. Je ne compte pas les 20 milliards d'euros d'enlevés aux hôpitaux publics.
Donc sur l'ensemble,
ce qu'ils nous donnent à côté, il en reprend le double, voire le triple de l'autre, et les Français le sentent bien dans leur porte-monnaie.
Alors, vous avez peut-être petit exercice. Avez-vous trouvé un élément positif dans ce budget? Et lequel?
Écoutez, quand, par exemple, il baisse l'impôt sur le revenu des 2 premières tranches, nous le saluons, mais nous regrettons qu'il n'augmente pas les tranches les plus élevées, les plus riches, parce que du coup, ça fait des recettes en moins pour l'État. Nous avions proposé, nous, d'équilibrer cette baisse de l'impôt sur le revenu en faisant en sorte que l'on baisse pour les classes moyennes, mais que l'on augmente pour les classes les plus riches. Quand on voit que les patrons du CAC 40 se sont encore augmentés de 14% en moyenne leur salaire et qu'ils touchent 2,5 millions en moyenne par an, quand même, ils pourraient, eux, contribuer un peu plus.
Et la lutte contre la fraude fiscale, qui a quand même été considérablement augmentée par
le gouvernement. Non, mais vous rigolez. La lutte, bah alors ça, j'aimerais bien un jour en débattre avec Gérald Darmanin, parce que les quelques sous qu'il a fait rentrer dans les caisses de l'État sont rien, peanuts, par rapport aux dizaines de milliards d'euros qui s'évadent tous les ans de notre pays. Il a supprimé des postes à Bercy qui luttaient contre l'évasion fiscale. Il n'a toujours pas mis sur la liste noire des paradis fiscaux françaises des pays notoires tels que le Luxembourg, tels que l'Irlande, qui ont des pratiques d'évasion fiscale qui coûtent cher à notre pays. Et il va nous dire demain, même la Suisse a été retirée de la liste des paradis fiscaux. C'est comme si on disait que les narcotrafiquants, aujourd'hui, eh bien, ils ne sont plus condamnables. Enfin, ça va bien.
Damien Fleurot, on continue sur un sujet qui vous est cher.
Oui, l'industrie, vous parlez souvent du cas de Whirlpool à Amiens, ce site industriel fermé. Le président de la République s'y est rendu il y a quelques semaines. Un comité de suivi est en place et peut-être des quelques centaines d'emplois en 2020 avec des entreprises qui ont manifesté leur intérêt. Est-ce qu'au moins vous reconnaissez là que l'exécutif se mobilise pour ses salariés?
Ce que je regrette, ce qui m'a fait bondir, c'est quand le président de la République y est allé dernièrement en disant « l'État ne peut pas tout, l'État est impuissant ». Exactement, il a dit « c'est trop facile de mettre ce qui se passe sur le dos de l'État ». C'est inadmissible de ma part. Parce que si nous voulons être une grande nation... C'est inadmissible qu'ils disent ça. Parce que si l'État est impuissant, alors on ne redeviendra jamais une grande nation industrielle.
Alors l'État se mobilise aujourd'hui avec ce comité de suivi en allant chercher des entreprises.
Oui, mais il ne se donne pas les moyens pour cela. Et on laisse filer notre industrie à l'étranger. Whirlpool Amiens, c'est un groupe américain qui fait le choix de ne plus fabriquer de sèche-linge en France mais et d'aller Pologne. Les produire en Pologne parce que là-bas, d'accord, le coût du travail est de... 549, le salaire est de 549 euros. Sauf que l'État ne compte pas tout ce que ça coûte au pays de laisser partir, de laisser délocaliser cette entreprise. Ça nous coûte, il y a le coût social, le coût du chômage, il y a le coût écologique parce que les sèches-linges, il va falloir les importer par camion dans notre pays. Et puis il y a même un coût fiscal parce que Whirlpool va payer des impôts en Pologne mais il n'en paiera plus en France. Donc ce coût-là, il n'est jamais pris en compte. Moi, je préférerais un État qui dise... On va accompagner fortement un industriel. On va peut-être même trouver le moyen avec la BPI ou d'autres de rentrer dans le capital de ces entreprises pour à tout prix maintenir la production industrielle. Moi, je préférerais qu'on produise en France, que l'on produise en France des téléviseurs, des sèches-linges, des micro-ondes, des machines à laver, des frigos, alors que tous ces produits-là, aujourd'hui, sont fabriqués à l'étranger. Ils ont un coût écologique important et un coût social encore plus important
ça,
dans notre pays.
Pourquoi n'avons-nous pas
une grande ambition industrielle pour la France?
Justement, grande ambition industrielle. Nous sommes au 21e siècle, Fabien Roussel, ça ne vous a pas échappé. Tout est en train de changer dans les modes de production. L'avenir de l'industrie, c'est aussi aujourd'hui, qu'on aime ou pas, la robotique, c'est aussi les imprimantes 3D, ce sont aussi les transports autonomes sans chauffeur, sans livreur, qui aujourd'hui sont en train de s'installer dans le nouveau mode de fonctionnement. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Quelle est la réflexion du Parti communiste sur cette évolution inéluctable des modes de production?
Mais cette révolution inéluctable des modes de production arrivera.
Elle arrive déjà.
Elle arrive.
Dites-le à vos, à vos adhérents et à ceux qui nous écoutent. Elle arrive, elle est là.
Oui, mais je n'ai pas besoin de parler à mes adhérents. Je peux vous dire que les ouvriers de Renault, aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est que les ateliers de production, ils partent en Tchéquie, en Roumanie.
Il y a toujours des ouvriers aujourd'hui
qui produisent des voitures, sauf qu'on va les produire dans des pays soi-disant à bas coût, sans prendre en compte le coût social dans notre pays. Donc aujourd'hui, il n'y a pas des robots, des imprimantes 3D qui fabriquent les voitures. Ça arrivera certainement dans 30 ans et il est temps
c'est prévoir,
d'y
hein.
réfléchir. Oui, mais réfléchir à ça dans 30 ans, c'est aussi de se demander si demain, il n'y a plus personne qui produit des voitures. Qui va payer les salariés pour les acheter, ces voitures? Donc il faut bien réfléchir aussi à la rémunération, à savoir avec quel pouvoir d'achat on va vivre demain, si demain il n'y a plus d'usine. Vous savez ce que je pense? Un pays sans industrie est un pays sans avenir. Et donc aujourd'hui, nous devons nous préparer à cela, mais d'abord aujourd'hui, nous devons avoir une capacité industrielle forte pour mieux préparer cette échéance qui va arriver. Parce que sinon, demain, même les usines avec des robots, elles ne seront pas chez nous.
Alors, on continue à bien comprendre, justement, par rapport à votre position et par rapport, justement, à cette évolution du nouveau code, des nouveaux modes du travail. Qui faut-il défendre aujourd'hui ? Le livreur ubérisé, micro-travailleur de la plateforme de livraison Internet ou le cheminot bien à l'abri dans son entreprise qui ne le mettra pas au chômage ?
Notre grande crainte, c'est qu'effectivement... vous le dites un petit peu d'ailleurs, notre grande crainte c'est que demain tous les salariés soient invités à passer sous contrat d'auto-entrepreneur et de devenir un Deliveroo, un Uber pour aller travailler dans une entreprise. C'est-à-dire que l'on développe...
Alors qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Qu'est-ce que dit le Parti communiste ?
Nous ne partageons pas l'idée qu'il faille revenir au travail, à la tâche du siècle dernier, puisque c'est ça. Un auto-entrepreneur, c'est du travail au coup de pédale, c'est du travail à l'heure, c'est du travail à la journée. Et donc, ils ont invité, vous savez ce qu'ils ont inventé chez moi ? Les CDI-I. Vous savez ce que c'est que les CDI-I ? C'est des contrats à durée indéterminée, intérimaire. C'est un petit peu si on vous proposait un contrat de mariage en CDD. Enfin, des CDI-I. C'est donc la précarité. Là,
qu'est-ce qu'il faut faire pour les salariés les employés de Uber ? Il faut les requalifier en salariés ? Qu'est-ce que vous proposez ? Parce qu'eux, ils ne sont pas forcément demandeurs d'être requalifiés en salariés.
D'abord, il faut les écouter, eux. Ouais. Parce qu'eux, ils ont des propositions. Mmh. Ils demandent à conserver une forme de liberté et d'indépendance, mais ils demandent des droits. Ils demandent des droits. Ils demandent des droits congé maladie, des droits de congé tout court, des droits à la retraite. Ils demandent des droits.
Mais justement, comment est-ce que vous les accompagnez ? Est-ce que les syndicats les accompagnent ?
Mais d'abord, parce que nous avons déposé un texte de loi au Sénat là-dessus pour mieux encadrer les droits des travailleurs sous contrat d'auto-entrepreneur. Et c'est quand même la moindre des choses. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible.
Est-ce qu'il faut créer un revenu minimum universel pour justement adosser aux revenus plus précaires de ces micro-travailleurs, de ces nouveaux travailleurs,
qu'il y a une
garantie de vie ?
Mais certainement qu'il y a des propositions à faire dans ce sens-là. En tout cas, ce mode de contrat, ce type de travail ne peut pas se développer au reste du marché du travail. Or, c'est la crainte que moi j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, dans les entreprises, on va proposer du travail à la tâche aux salariés. Vous savez que les boîtes d'intérim, elles sont aujourd'hui situées à l'intérieur des grands groupes, chez Renault, chez Peugeot. Et les boîtes d'intérim sont à l'intérieur. Ils développent de plus en plus ces contrats intérimaires, ce travail à la tâche. Enfin, quels seront les droits des salariés demain ? Eh bien, nous voulons qu'ils soient garantis et que chaque salarié, eh bien, qui passe sa vie au travail, sache qu'il a une protection sociale, il a le droit à une bonne retraite. Ça fait partie quand même des combats à l'ordre du jour.
D'autres questions, d'autres réponses dans quelques instants. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Damien Fleureau, Stéphane Dupont, Mickaël Darmon.
Avec Fabien Roussel, comment le Parti communiste peut-il parler à un plus grand nombre de Français comme il l'avait fait par le passé ? On va en parler dans cette partie. Tout d'abord, on écoute, on regarde. Peut-être.
Elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça.
Mélenchon sur Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette phrase et de cette déclaration ?
Je dois commenter quoi ? Mélenchon,
Jean-Luc
Le Pen,
Mélenchon, le fait qu'il dise, elle est frappée d'humanisme, comme il dit, je ne vais pas la critiquer. Et au fond, est-ce que c'est pas l'alliance des populistes qui est en train de s'écrire en ce moment ? Premier rouage de l'élection présidentielle.
Écoutez, l'alliance des populismes, je ne crois pas. L'alliance à laquelle que je dénonce, c'est la complicité qui existe aujourd'hui entre le président Macron et Marine Le Pen, qui sont les deux pièces, les deux faces d'une même pièce, et qui jouent une forme de duo, de duel. Et ça, par contre, c'est insupportable, comme s'il n'y aurait pas d'autre choix qu'entre eux deux. Et donc, c'est ça que je dénonce le plus aujourd'hui. Oui.
On reste quelques instants sur Jean-Luc Mélenchon et Stéphane Dupont.
J'enfonce le clou sur Jean-Luc Mélenchon après la défaite de Corbyn en Angleterre. Il a tenu des propos, il a été accusé d'antisémitisme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est encore quelqu'un de fréquentable pour le Parti communiste ?
N'essayez pas de mettre des coins entre
nous. Ah non,
vous
posez des questions.
Oui, je vois bien, ça fait la deuxième. Je serai bienveillant envers chaque force de gauche et écologiste de ce pays, parce que nous avons besoin, dans nos différences, et nous en avons, plus ou moins grandes, mais nous avons besoin de nous serrer les coudes et d'appeler les Français à se serrer les coudes dans leur diversité aussi. Donc je n'irai pas à faire des commentaires malveillants. Nous avons des différences.
Oui, mais ils ne sont pas forcément malveillants, vos commentaires. Mais quand on entend Jean-Luc Mélenchon qui parle des oukases, les oukases arrogants des communautaristes du CRIF, vous êtes d'accord ou pas ? C'est une question.
Mais je ne partage pas ces propos. Je n'entendrai jamais dans ma bouche des propos de cette forme. Je ne suis pas comme ça. Il est autrement. Pour autant,
à quoi il joue ? Pardonnez-moi d'insister, Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il ne vient pas à votre meeting commun de Saint-Denis avec les autres leaders et forces de gauche, il y avait Olivier Faure pour le Parti Socialiste, il y avait même Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière. Vous voyez bien qu'il joue une partition solo, Jean-Luc Mélenchon ?
Eh bien, écoutez, vous me demandez à quoi il joue, mais c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, ce que je pense qu'on sera plus fort en étant tous ensemble. Je pense aussi que demain, personne ne gagnera tout seul, à gauche, et qu'il va bien falloir trouver les moyens de taper ensemble sur le même clou, et donc de tenir le marteau tous ensemble. Donc l'exercice que nous faisons sur les retraites est un exercice pratique. Et c'est pour ça que...
Il est dans le comité de liaison, Jean-Luc Mélenchon, avec vous ?
Non, ils sont venus, et Adrien Quatennens était là au meeting que nous avons fait à Saint-Denis.
Mais dans le comité de liaison que vous mettez
en
place ?
Pour l'instant, non. C'est leur choix. J'ai dit que c'était pas grave et que la porte restait ouverte. Et donc, nous allons encore avoir des jours devant nous à travailler ensemble. Et donc, j'espère qu'ils viendront. Et puis, s'ils viennent pas, c'est pas grave. Je pense qu'il faut faire partir un train, que ce train doit commencer à avancer.
Celui-là, il doit
et
partir.
Puis, oui. Celui-là, il doit partir. Et là, nous l'avons fait partir. Et donc, j'espère qu'à un moment donné, il y aura de plus en plus de monde qui montera dedans pour proposer une réforme progressiste de notre système de retraite.
Alors, vous avez parlé donc des clous, des marteaux, et il y a la faucille, des négociations, bien entendu. Voilà, c'est fait. Justement, pour les municipales, où en est l'accord avec le Parti Socialiste que vous négociez pour justement avoir des accords, des soutiens mutuels dans les villes pour
Alors,
mars 2020 ?
Alors, on ne peut pas réduire ce que nous faisons à un accord avec le Parti Socialiste, parce que les municipales, c'est vraiment typique. C'est une élection locale et donc les rassemblements, les listes, elles se construisent à partir de projets locaux. Et donc ville par ville, ces listes, elles se construisent comme ça. Parfois, les communistes seront avec l'ensemble des forces de gauche, écologistes, socialistes, insoumis. Parfois, ce sera avec les écologistes, parfois avec les socialistes, parfois avec la France insoumise. Voilà, il y a, je pense, autant de rassemblements différents qu'il y a de grandes villes et de projets différents. Et il y a aussi toutes ces communes, 35 000, de moins de 5 000 habitants, où là, on ne parle pas d'étiquette politique, on parle de rassemblement. Et je pense que l'élection municipale, elle va être importante aussi pour
Il
toutes ces communes
que...
qui ont tant de mal aujourd'hui. Je pense à ces équipes municipales
Bien
et
sûr.
À ces maires qui ont tant de mal à gérer leur commune. Et
Fabien
là, j'invite Roussel. À ce que l'on participe à ces listes aussi.
Fabien, c'est vous qui aimez l'histoire. Il y a quand même ce qu'on a appelé le communisme municipal.
Oui, alors
où est-il, Stéphane Dupont ?
Quels sont vos objectifs là, pour les municipales ? C'est de perdre le moindre de villes possible ? Parce qu'en 30 ans, vous aviez 1500 mairies. Aujourd'hui, vous n'en avez plus que 700. C'est quoi ? Vous êtes dans une stratégie défensive ? Vous défendez vos bastions ? Ou vous avez encore une volonté de conquête ?
Les mots que vous employez ne sont certainement pas ceux que nous employons. Mmh. Et donc, nous avons surtout l'objectif d'être le plus utile possible dans chaque commune, qu'elle soit grande ou petite.
Mais
la situation n'est pas
réduit.
La même qu'il y a 30 ans. Nous pensons que les villes peuvent être utiles justement pour apporter leur contribution au combat pour le climat, pour la transition écologique. Nous pensons que les villes ont un rôle toujours important à jouer en faveur de services publics, c'est-à-dire que la ville soit accessible à tous, alors qu'il y a des communes dirigées par la droite, ou alors si c'était En Marche qui arrivait, bonjour, ou là c'est
Mais ce communisme
ville,
municipal, il est en déclin, vous le niez pas.
Donc, non, il n'est pas du tout en déclin. Vous pouvez voir que dans les villes gérées par un maire communiste, mais avec dedans des conseillers municipaux, des adjoints qui sont d'horizons divers, parfois sans étiquette, eh bien nous faisons en sorte de travailler avec tout le monde. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit une fois dans le train, mais vous les communistes, c'est vrai que vous êtes hybrides. Vous travaillez avec tout le monde. Et quand on est à la tête d'une mairie, je pense à Saint-Amand-les-Eaux et au maire Alain Bocquet, nous savons...
Dont vous êtes issu, cette région.
Tout à fait. Eh bien, nous avons beaucoup de liens avec la vie associative pour que, justement, nous travaillions avec toute bien la sûr. Population. Et en même temps, nous travaillons avec les chefs d'entreprise. Nous avons réussi à implanter des entreprises dans notre agglomération, dans notre commune. Et je pense que la force des communistes, c'est justement ça. Voyez. C'est de savoir travailler avec le monde économique, apporter, faire en sorte que pour les personnes en grande difficulté, la ville soit le plus présente possible. C'est de faire en sorte qu'une ville soit celle du vivre ensemble.
C'est intéressant parce que vous venez de dire finalement qu'il n'y a pas effectivement que l'État pour attirer les entreprises sur les territoires. Vous venez de l'établir. En 1997, 33% de la population francilienne était administrée par une mairie communiste. Aujourd'hui, on est à 10%. Donc, vous qui êtes arrivé à la tête du PC il y a un an, votre feuille de route, c'est comme on l'a entendu beaucoup, on l'a lu dans vos discours, c'est lutter contre l'effacement du Parti communiste.
Non. Ma feuille de route, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, les Français se rassemblent et que l'on arrive à changer de modèle économique et social. Mon objectif, c'est de désintoxiquer l'économie de la finance. Mon objectif, il est beaucoup plus grand que celui que vous dites de m'occuper de la boutique Parti communiste français. On n'est pas là pour ça.
Oui, mais
on a
Fabien
un projet
Roussel,
pour le pays. On a un projet pour les Français. Aujourd'hui, tout est fait
ça
pour nous diviser.
Tout
est fait aujourd'hui pour nous diviser avec un gouvernement qui défend son
Fabien
clan.
Roussel.
C'est le clan des privilégiés et des 1%.
Lors de la dernière élection aux européennes, vous avez porté une liste. Enfin, Yann Brossat était tête de liste pour le Parti communiste. Le résultat, c'est 2,5% des voix. Vous n'avez plus un eurodéputé.
Oui.
Pourtant, l'Europe, c'est un sujet que vous portez justement sur la scène politique.
Oui, mais ce que nous avons fait aux élections européennes, c'est de faire entendre notre voix, notre projet de société lors des grands rendez-vous nationaux. Et donc, effectivement, quand il y a une échéance démocratique,
donc
telle
vous
que
aurez
l'élection
un candidat
européenne,
en 2022, par exemple, c'est ce que vous nous dites ce matin.
C'est l'occasion de participer au grand débat avec le pays et de faire part de ses idées.
Donc vous aurez un candidat en 2022 ?
Les communistes le décideront et nous le déciderons ensemble et c'est ce que je souhaite.
Vous souhaitez avoir un candidat en 2022, que ce ne soit pas forcément Jean-Luc Mélenchon comme
je pense que l'élection
fois.
Présidentielle est un moment important de débat politique dans notre pays. De ne pas y avoir été présent l'ensemble de ces deux derniers scrutins a été préjudiciable et ça a manqué. Je pense qu'il faut que nous puissions aussi participer à ce rendez-vous démocratique qui est important pour notre pays.
Ça pourrait être vous le candidat du Parti communiste en
2022. Déjà, il faut qu'on décide ce que nous allons faire aux élections présidentielles, puisque c'est
pas
décidé.
Par une primaire, peut-être.
Et puis ensuite, on verra qui est le candidat.
En 2017, le Parti communiste avait donné une consigne de vote : battre Le Pen le 7 mai, combattre Macron dès le 8. Marine Le Pen, elle aujourd'hui maintenant soutient le mouvement contre les retraites. Est-ce que c'est votre concurrente parmi les catégories populaires ?
Je combats surtout les idées qu'elle met en avant. À chacune de ses sorties, de
oui,
elle ou de
certains en sont sensibles. Certaines personnes, certains électeurs dans les catégories populaires en sont sensibles
oui, je
à
sais,
ces
oui.
idées.
Oui. Oui, donc c'est tout l'enjeu, c'est qu'avec notre force militante, nous allions voir l'ensemble des salariés du monde du travail qui aujourd'hui se posent des questions. Et c'est pour ça que je vous dis, ce que je combats, ce sont les idées, ces idées à elles, qui consistent à dire que si demain une usine est délocalisée, c'est la faute des immigrés. Si tout va mal dans le pays, c'est la faute des immigrés. Si des hôpitaux ferment, c'est la faute des immigrés. Elle a une lubie. C'est l'immigration. Or, nous pensons, nous, autrement, c'est que s'il y a un problème dans notre pays, ce n'est pas à cause de l'immigration, c'est à cause du poids de la finance qui pèse énormément sur notre économie. Et donc, c'est un vrai débat que nous devons avoir dans notre pays, de reconquérir, justement, auprès de nos concitoyens, du débat politique. Moi, vous me parlez du Front National. En fait, moi, mon sujet, c'est les 23 millions de Français qui ne vont plus voter. Ça me préoccupe beaucoup. 23 millions d'abstentionnistes dans notre pays, quand on sait que Marine Le Pen et Macron font chacun 5 millions de voix, 5 millions de voix chacun, et 23 millions d'abstentionnistes, eh bien, j'appelle l'ensemble des Français qui ne vont plus voter à s'interroger de leur utilité. Et oui, ils peuvent changer le cours des choses avec un bulletin de vote.
Tout à l'heure, vous dénonciez le match Le Pen-Macron que vous dites organisé, réorganisé par les deux protagonistes. Si jamais il devait, une fois de plus, être à l'affiche en 2022, Quel appel vous feriez pour le deuxième tour?
D'abord, je veux vous, pas. Vous vous rendez compte que déjà aujourd'hui, 2 ans et demi avant, vous me demandez est-ce qu'on va appeler à voter au second tour de l'élection présidentielle. Donc, je ne répondrai pas à votre question parce que c'est une mauvaise question.
C'est une question très bonne. Je demande à l'ancien journaliste que vous êtes de ne pas qualifier si les questions sont bonnes ou mauvaises.
Non.
Vous savez qu'il y a des questions et vous avez vos réponses.
Ben oui, mais justement. Je vois bien ce que vous voulez me faire dire.
Non, je me réfère à la consigne de vote de Pierre Laurent,
oui,
qui à l'époque dirigeait le Parti communiste en 2017. La question est légitime.
On verra à ce moment-là. Il y a une chose qui me préoccupe. C'est l'élection législative, parce que je considère que le pouvoir doit revenir au Parlement. Le pouvoir doit revenir aux élus du peuple, pas à un homme ou une femme. Ça veut dire que je conteste l'élection présidentielle. Voyez-vous, je conteste l'élection présidentielle.
Mais vous aurez un
candidat. Parce que l'élection présidentielle, dans notre constitution d'aujourd'hui, c'est une monarchie parlementaire. C'est ça ce qui se passe. Aujourd'hui, Macron, avec l'élection législative qui est juste après, a tous les pouvoirs, avec sa majorité de Playmobil qui lève la main quand il le demande. Donc, il faut découpler l'élection présidentielle de la législative et il faut redonner le pouvoir au Parlement et aux 577 députés qui doivent être des élus du peuple. Et c'est pour ça que j'invite les Français à se pencher sur cette question-là pour réinvestir le Parlement.
Eh bien, c'était le grand rendez-vous de Fabien Roussel. Merci beaucoup, très bonne fête et à bientôt.
Merci
à vous.